Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique est à Marseille aujourd'hui au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM qui souffle sa première bougie. L'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets concernant la Méditerranée, dont on dit généralement qu'elle est une zone d'éternelle rupture. On est loin de la Normandie où est célébré ces jours-ci le 70e anniversaire du débarquement des forces alliées. Mais la Méditerranée a elle aussi joué un rôle central. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la question était aussi à mentionner en introduction de cette émission. Nos invités, Leila Shahid, diplomate, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Union européenne. Bonjour.
Bonjour.
Yves Aubin Damessuzière, ancien ambassadeur, président de la mission laïque française, spécialiste du monde arabe et méditerranéen. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Pirini, ancien représentant de la Commission européenne en Syrie, Libye, Tunisie et Turquie, chercheur à Carnegie Europe. Bonjour.
Bonjour.
La Méditerranée n'a de cesse d'offrir l'image d'une zone de crise dont certaines semblent ne jamais vouloir s'éteindre, un champ de faille, diront certains. Pour commencer notre tour d'horizon de l'actualité méditerranéenne, et puisque Géopolitique a la chance de vous avoir, Leila Shahid, je propose que nous commencions par la question israélo-palestinienne avec ce temps fort de demain à Rome. Je veux parler de la rencontre de prière qui réunira le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le président israélien, Shimon Peres. On parle du retour de la diplomatie vaticane, voire d'ingérence politique. Cette initiative est-elle bienvenue ? A-t-elle des chances de débloquer le processus ? Comment voyez-vous cette invitation du pape ? Leila Shahid.
Écoutez, je pense que le pape François est une bénédiction. Je n'ai pas toujours été très sensible à la diplomatie du Vatican à d'autres périodes, mais je pense que nous avons la chance d'avoir un pape qui est sincèrement et profondément concerné par la paix dans cette région du monde comme dans le monde entier, et par beaucoup d'autres thèmes qui sont beaucoup plus, je dirais, insérés dans la vie des hommes et des femmes que représente aujourd'hui le monde, chrétien et non chrétien. Son voyage en Palestine a été magnifique. Il a fait des gestes très importants à l'égard des Palestiniens, mais aussi à l'égard des Israéliens, avec du courage, étant donné l'histoire de l'Église. Et son invitation a été très, très bienvenue, dans, non seulement auprès du président Peres et du président Abbas, mais auprès de l'opinion publique. Elle ne va pas résoudre les problèmes, mais elle va, comme vous dites, ouvrir peut-être une page d'une nouvelle forme d'ingérence pour la construction de la paix. Nous avons vu hier les images terribles qui nous rappellent les 50 millions de victimes des guerres mondiales européennes. Et je pense que nous avons besoin de l'apport de tous ceux qui croient dans la paix pour qu'elle arrive, parce que nous sommes très loin de la paix aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens, et c'est sûrement le cœur du conflit qui mine la Méditerranée. Donc il faut tous les efforts, toutes les contributions pour que nous arrivions à deux États qui vivent côte à côte et en paix, pour que toute la Méditerranée vive en paix.
Yves Aubin Damessuzière et Marc Pirini sur cette rencontre à Rome.
Non, fortement symbolique, et le geste qu'a fait le pape à Jérusalem, et notamment quand on l'a vu poser la main sur le mur, c'est une image qui restera dans l'histoire de ce conflit. Il est bien qu'il y ait un retour de la diplomatie vaticane qui a existé au cours des dernières décennies, qui s'était un peu effacée, et voici qu'elle se relance, étant bien entendu que le Vatican ne peut pas être un acteur majeur de la résolution de ce conflit qui dure depuis si longtemps.
Moi, je crois d'abord que le geste de poser la main sur le mur de séparation, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose devant le mur des lamentations, et pas plus, ça c'était un symbole très fort, et l'invitation à prier à Rome est aussi un symbole très fort. Alors, ce conflit est gelé depuis très longtemps, mais peut-être qu'un geste peut aider à faire quelque chose.
Leila Shahid, de Mahmoud Abbas arrive renforcé, j'ai envie de dire, à Rome demain, avec donc un gouvernement palestinien de réconciliation qui a prêté serment lundi dernier. Quel regard portez-vous sur cette unité retrouvée entre le Fatah et le Hamas ? Est-ce que vous y voyez une étape importante pour le mouvement palestinien, et quels sont les défis ?
Très importante étape. Peut-être que dans les dernières 45 années, la plus grande tragédie a été cette division. C'est la première dans l'histoire d'un mouvement qui a un demi-siècle d'âge. Et je me félicite de cette réconciliation qui ne peut être qu'essentielle pour retrouver le chemin d'une unité qui fait de l'OLP l'interlocuteur unique avec lequel le monde va négocier. La population palestinienne est très soulagée. Elle aurait souhaité que ça arrive plus vite, mais les interventions dans la région sont difficiles et compliquées. Je pense, comme vous dites, que le président Abbas arrive renforcé, non seulement par le gouvernement qui a le soutien de toutes les parties palestiniennes, mais le soutien de toutes les parties internationales, ça veut dire l'Union européenne, l'administration américaine, la Ligue des États arabes, les Nations unies. Il n'y a pas une partie au monde, sauf bien sûr M. Netanyahou, qui a trouvé à redire que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a le soutien de toutes les parties. Parce que M. Netanyahou n'est pas intéressé par la paix. Il a même été jusqu'à dire qu'il était déçu de l'administration du président Oman parce qu'elle parle gouvernement palestinien. Mais vous savez, aujourd'hui, nous regardons l'histoire de l'Europe et qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est une question de volonté politique. C'est pour ça que toutes les contributions finiront par faire bouger M. Netanyahou, parce qu'il ne peut pas être seul contre tous dans le monde. Et je pense que l'apport de cette prière en présence de Shimon Peres, qui est le président de l'État d'Israël et celui qui a signé les accords d'Oslo, est un message aussi au peuple israélien. Peres, au moment où il part, dit à Netanyahou qu'il n'est pas d'accord avec la politique millénaire. Le jour où M. Netanyahou répond au gouvernement en déclarant 3800 nouvelles unités de colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, ce qui est une claque pour la communauté internationale.
Alors, Shimon Peres qui est sur le départ, juste pour nos auditeurs, une précision, c'est qu'effectivement, l'élection de son successeur est prévue très rapidement. Là, le 10 juin, il doit quitter son poste, Shimon Peres, le 27 juillet prochain. Yves Aubin, la Messusia, un commentaire sur ce gouvernement de réconciliation, dont on peut dire aussi qu'il est une réconciliation, en tout cas, qui s'impose dans la perspective des élections prochaines. Et voilà, il y a une véritable volonté politique.
Alors, il faut se souvenir que ce gouvernement d'union nationale, à la réconciliation interpalestinienne si importante, avait suscité beaucoup de scepticisme, parce qu'on en parlait depuis plusieurs années. Et je pense qu'Israël a été surpris de voir effectivement cette réconciliation se concrétiser avec un gouvernement de technocrates, avec quelques ministres qui sont originaires de Gaza, sans qu'ils aient une marque Hamas, c'est tout à fait essentiel. Et comme le disait Leïla Chaïd, la réaction quasiment unanime de la communauté internationale, en commençant par les États-Unis, qui avaient fait obstacle il y a quelques années à cette réconciliation et qui adhèrent, c'est l'Union européenne, c'est l'ensemble de la communauté internationale. Et je pense et j'espère que Israël, le gouvernement lui-même, et au-delà du gouvernement, c'est-à-dire l'opinion, prendra conscience de l'isolement actuel d'Israël. Et ça, c'est un fait nouveau et très important.
Marc Pierini.
Oui, ma seule inquiétude dans tout ça, c'est que beaucoup de gouvernements israéliens successifs ont vécu de l'isolement, ont trouvé leur force dans le fait qu'ils étaient seuls contre tous. Donc il faut espérer que cet accueil unanimement favorable à la réconciliation interpalestinienne fasse une impression sur les politiciens israéliens. C'est pas gagné.
Je me retourne vers vous, Leïla Chaïd. Oui.
Quelque chose, surtout que Shimon Peres, dans les fonctions des responsables de la politique étrangère, comme président, a un rôle symbolique. Il manque aujourd'hui, je pense aussi, quelqu'un qui ose défier Netanyahou de manière démocratique au sein du Parlement israélien. Mais je pense que c'est un beau message de Shimon Peres en partant. Il remet la balle, je pense, dans le camp de la société israélienne. Moi, je suis beaucoup la presse israélienne. Il y a une grande partie de la presse qui est contre la position du Premier ministre israélien et avec la position de la communauté internationale.
Alors, quelques mots pour terminer sur cette question de la israélo-palestinienne Leïla Chaïd. Les négociations qui ont eu cours ces dernières semaines, qui se sont arrêtées à la fin du mois d'avril. Vous parliez tout à l'heure de nécessité de volonté politique. Elle a manqué, cette volonté politique, dans les négociations?
Elle a manqué. Ce n'est pas parce que je suis dans le camp palestinien que je dis qu'elle a manqué du côté israélien. Mais il n'y a pas de symétrie. Ça fait 47 ans qu'Israël viole le droit international en refusant de se retirer des territoires occupés. Et malgré ça, nous négocions exactement depuis Oslo, ça veut dire 21 ans. Et il y a eu 9 mois de négociations avec des efforts très sincères et très déterminés et très assidus du secrétaire d'État, M. Kerry, qui a dû venir 20 fois. Il a encore vu le président Abbas cette semaine pour lui dire qu'il va continuer à essayer. Mais lorsque la partie qui détient les cartes de la mise en œuvre des résolutions qui exigent le retrait de l'armée, la reconnaissance des frontières, l'arrêt de la colonisation, la libération des prisonniers, nous avons bien sûr arrêté parce que on attendait un engagement qui avait été fait par le gouvernement israélien de la libération du dernier groupe de prisonniers qui sont en prison depuis avant les accords d'Oslo. Ça veut dire que ça fait plus de 21 ans. Et M. Netanyahou a choisi d'annuler cette libération. Et surtout, tous les jours, il annonce des milliers et des milliers d'unités. Il est en train de prendre le territoire, de le grignoter, de le manger au moment où il doit être en train de négocier son retour à la partie palestinienne. Donc c'est incohérent complètement. Nous sommes dans une phase très dure. C'est pour ça que nous avons besoin de la participation de toutes les parties, depuis le pape jusqu'au chef d'État du monde, jusqu'à la société israélienne, qui est souvent très courageuse d'ailleurs.
Phase très dure, Leila Shahid vient de le dire. Ivo Bandamé, c'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de dire que cette réconciliation interpalestinienne va être durable cette fois-ci?
Il faut l'espérer qu'elle sera durable, mais comme le disait Leila Shahid, il y a mouvement du côté israélien. Je dirais, par rapport au processus de paix, que j'ai tendance à appeler d'ailleurs récessus, puisque plus que processus, par rapport aux accords de Camp David de 2000, eh bien, donc il y a un mouvement négatif, c'est-à-dire c'est la poursuite de la colonisation. La marche forcée. Et qui est la cause principale de l'échec de l'exercice qu'a lancé Kerry, sans doute, avec une volonté d'aboutir. Mais il y a aussi, il faut le dire, un mouvement positif du côté palestinien, dans la mesure où l'autorité palestinienne a demandé d'adhérer à l'ensemble des conventions internationales. Quand la Palestine adhère à la convention, par exemple, sur les questions de torture, sur l'enfance, c'est-à-dire que ce sont des conventions qui vont s'imposer à l'autorité palestinienne. Donc là, on voit le mouvement vers la création d'un État de droit et donc d'un État palestinien de plein exercice qui finira par arriver prochainement, je pense.
Marc Pierini, pour terminer cette page israélo-palestinienne de l'émission.
Je pense qu'il faut aussi compter sur la société civile israélienne, parce que les systèmes politiques sont des systèmes politiques, les majorités changent. Mais il reste cette société civile israélienne qui a longtemps été engagée et je crois qu'il faut compter sur elle et s'engager avec elle.
Et la soutenir, dit Leila Shahid. Alors, pour élargir à l'ensemble de la Méditerranée, quelques mots sur les révolutions dites du monde arabe. 2011 a marqué le temps des peuples, caractérisé par des soulèvements en cascade, spontanés et libérateurs. Ce fut ensuite le temps des frères musulmans, marqué à partir de 2012 par une poussée des pays islamistes lors des premières élections libres organisées. Et voici venir maintenant le temps des généraux. Les élections programmées durant ce printemps dans le monde arabe, je pense à l'Algérie, l'Égypte, la Syrie, en attestent à des degrés divers. Quels enseignements tirer de ces exemples de transition, on va dire, avortée ou enterrée, Ivo Bandamé-Suzière?
Alors concernant ces révolutions dans le monde arabe qu'on a appelées peut-être à tort les printemps arabes, mais on n'est pas, contrairement à ce que disent certains analystes, dans un hiver arabe, le mouvement est toujours là. Et il faut, ce qui est remarquable, ce sont les ressorts communs de l'ensemble de ces révolutions. Ça commence par la jeunesse. Et c'est bien au-delà du problème de l'emploi et du chômage. C'est le problème de la frustration de cette jeunesse. L'absence de liberté. Aussi, un autre élément qui est important, c'est la corruption et la prédation. Voilà les, disons, les ressorts communs. Alors évidemment, quand il y a eu la chute très rapide, qui a surpris les analystes et les observateurs, de Ben Ali. Et ensuite, ça a été l'Égypte, Moubarak. Et ensuite, ça a été la Libye, dans des conditions totalement différentes, puisqu'il y a eu une intervention internationale, sur laquelle on peut se poser des questions sur sa légitimité. Et puis après, ça a été la Syrie. Et c'est là où on se trouve dans une tragédie, parce que il y a la complexité, effectivement, de ce pays, de sa société, de son environnement. Mais il faut se souvenir, parce que maintenant, on ne voit d'un côté que les troupes de Bachar el-Assad et de l'autre, cette rébellion dite djihadiste. Mais regardons les premières images de ceux qui protestaient, qui demandaient plus de liberté et qui réclamaient, voilà le thème qui est essentiel, c'est-à-dire un retour à la dignité de la personne. Karama était le mot-clé de l'ensemble de ces révolutions. Mais alors maintenant, effectivement, il est difficile de dire comment les choses vont évoluer. Quand vous parlez des retours des généraux, je pense que c'est le cas particulier de l'Égypte. Est-ce que c'est le retour de Pharaon? Il ne sera probablement pas comme Moubarak, hein, maintenant, parce qu'il faut voir qu'il a le soutien, si, on peut le regretter, et c'est la réalité, le soutien d'une grande partie de la population. Et par contre, pour aller vers ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu un temps islamiste qu'on pensait beaucoup plus long, et on voit, du fait de l'échec, d'abord c'est en Tunisie, et l'échec de Nahda, mais qui a pris le parti de se retirer de lui-même, et ça a été aussi l'échec des frères musulmans aussi en Égypte.
Alors, pour l'Égypte, je rebondis dessus très rapidement, Ivo Ben Labissière, on est tenté de dire tout ça pour ça, c'est-à-dire que Moubarak chassé, 3 ans après, le général Sissi est au pouvoir. Alors, vous dites que la dictature peut-être ne sera pas aussi solide que celle qui avait été en place jusqu'en 2011. Je pense qu'il faut peut-être attendre pour voir ce qui va se passer. Marc Pierini.
Ouais, je pense qu'il y a un élément commun qui est cette demande très forte de dignité des peuples arabes. Ils ont été abusés de toutes les manières possibles, politiquement et économiquement. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des situations très contrastées. Nous avons le drame syrien d'un côté et l'espoir tunisien. Je crois que la leçon de la Tunisie, c'est une leçon liée à la centralité de la société civile. Les syndicats, les organisations féminines, les organisations de jeunesse, la Ligue des droits de l'homme, etc. Tous ces gens ont fini par imposer la modération à des politiciens. C'est assez remarquable. C'est bien sûr inscrit dans l'histoire très modérée de la Tunisie par rapport à ses voisins arabes. Mais c'est un succès très remarquable, même si nous avions un ami tunisien autour de la table, il serait probablement très frustré et très impatient. La situation qui m'interpelle beaucoup plus, c'est celle de la Syrie, parce que nous avons maintenant un retournement complet. Bachar el-Assad a survécu parce que sa survie arrangeait bien M. Poutine, qui faisait en quelque sorte un test grandeur nature de sa puissance à l'échelle internationale, qui après a été retesté sur la Crimée et sur l'Ukraine. Mais en même temps, nous voyons que les excès du Qatar d'une part, de la Turquie d'autre part, dans le soutien aux djihadistes, ont créé d'autres problèmes. Nous avons aujourd'hui 3000, 5000, on ne sait pas, occidentaux, la plupart européens, qui sont allés sans ou sans revenus du djihad en Syrie. Et nous savons très bien, parce que nous avons maintenant des exemples répétés, qu'il y a là un vrai danger pour nos sociétés. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment on va traiter avec ce président nouvellement élu, entre guillemets? Son élection est une farce, bien entendu, mais il est là et il est toujours soutenu par la Russie.
Et un président qui ne respecte pas ses engagements internationaux, et on voit, je me tourne vers vous, Leila Shahid, là aussi, peut-être, un Occident impuissant à sortir de l'impasse.
Écoutez, je ne peux pas ne pas faire la comparaison avec comment on traite M. Poutine lorsqu'il annexe la Crimée. Et comment on traite M. Netanyahou et ses prédécesseurs lorsqu'ils annexent les hauteurs du Golan ou Jérusalem-Est? Parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Les Européens, lorsque ça les arrange, ils disent « Ah, on n'a pas de moyens, il n'y a pas de mécanisme pour faire reculer ceux qui violent le droit. » Et on a vu qu'ils ont, avec beaucoup d'efforts, mais nous avons vu hier les images, on a vu d'ailleurs que M. Poutine a finalement parlé avec le président élu de l'Ukraine et qu'il retire une part de ce... Ce n'est pas fini. En politique, c'est du temps long. Personne ne pensait qu'après les printemps arabes, comme la presse les arabes, en tout cas le soulèvement des sociétés civiles, ça allait être le paradis le lendemain. Je suis totalement de l'avis de Marc Pierini. Il y a des sociétés comme la société tunisienne, il y a une classe moyenne, il y a eu un Bourguiba qui a donné des forces aux femmes, il y a des structures qui ont pu, à travers les associations, les ONG, créer des réalités comme les associations droits de l'homme. Et nous voyons le résultat. Ils ont même convaincu les islamistes de céder le pouvoir pour faire un gouvernement de coalition. Et on a ceux comme en Syrie qui ont répondu à leur propre peuple avec la violence que nous connaissons. Les Européens ont fait des compromis. Les Américains aussi. Et rappelez-vous que M. Obama disait qu'il y avait des lignes rouges. On ne les a pas respectées, mais je suis persuadée qu'il faut, comme pour la Palestine, l'union de tous ceux qui croient que cette Méditerranée sera pacifiée pour tous ou sera de nouveau une guerre pour tous.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Leila Shahid, Ivo Ben Labissière et Marc Pierini dans quelques instants. À tout de suite.